Chapitre 6. Deux gentilshommes de grand chemin. Gibassier sortait de l'hôtel de la rue de Jérusalem juste au moment où, après avoir déposé le portrait de Saint Hyacinthe chez Carmélite, Dominique descendait à grands pas la rue de Tournon. La cour de la préfecture était vide. Un groupe de trois hommes y stationnait seul. De ce groupe, un homme se détacha et Gibassier reconnut, dans ce petit homme maigre, au teint olivâtre, aux yeux d'un noir brillant, aux dents étincelantes qui s'approchaient de lui, Gibassier reconnut, disons-nous, son collègue Carmagnol, l'homme de confiance de M. Jacal, le même qui lui avait transmis à Kehl les ordres du maître commun. Gibassier attendit, le sourire sur les lèvres. Les deux hommes se saluèrent. « Vous allez à l'Assomption ?» demanda Carmagnol. « N'avons-nous pas à rendre les derniers devoirs au reste mortel d'un grand philanthrope ?» dit Gibassier. « Justement, répondit Carmagnol, et je vous guettais à votre sortie de chez M. Jacal pour causer un instant de notre double mission. « Avec grand plaisir, causons en marchant ou marchons en causant. Le temps ne nous paraîtra pas long, à moi surtout. » Carmagnol s'inclina. « Vous savez ce que nous allons faire là-bas. Moi, j'y vais pour ne pas perdre de vue un homme que je trouverai adossé au troisième pilier à gauche et causant avec un moine, » dit Gibassier, qui ne pouvait revenir de la précision du renseignement. « Et moi, je vais pour arrêter cet homme. »« Comment pour l'arrêter ?»« Oui, à un moment donné. Et c'est cela que je suis chargé de vous dire. »« Vous êtes chargé d'arrêter M. Saranti ?» « Non, pas à Péquer, monsieur Dubreuil, c'est le nom de son choix, il n'aura pas à se plaindre. Alors vous allez l'arrêter comme conspirateur ? Non, pas comme émeutier. Nous allons donc avoir une émeute sérieuse ? Sérieuse, non, mais nous allons en avoir une. « Ne trouvez-vous pas bien imprudent, mon cher confrère, » dit Gibassier, s'arrêtant pour donner plus de poids à ses paroles, « Ne trouvez-vous pas bien imprudent de risquer une émeute un jour comme celui-ci, où tout Paris est sur pied ? Oui, sans doute, mais vous connaissez le proverbe, qui ne risque rien n'a rien. Sans doute, mais cette fois, nous jouons le tout pour le tout. Seulement, nous jouons avec des dépipés. Cette observation rassura un peu Gibassier, et cependant son visage resta inquiet et plutôt pensif. Était-ce les souffrances que Gibassier avait éprouvées au fond du puits qui parle, qui se traduisaient ainsi, ravivées qu'elles avaient été la veille par le souvenir? Était-ce que les fatigues d'un voyage précipité et d'un prompt retour avaient imprimé sur son front le sceau trompeur du spleen? Toujours était-il que le comte Bannière de Toulon paraissait en ce moment en proie à quelques grands soucis ou à quelques vives inquiétudes. Carmagnol en fit la remarque et ne put s'empêcher de lui en demander la cause au moment où il tournait avec lui l'angle du quai et de la place Saint-Germain-l'Auxerrois. « Vous avez l'air soucieux, lui dit-il. » Gibassier sortit de sa rêverie et secoua la tête. « Hein ? » fit-il. Carmagnol répéta la question. « Oui, c'est vrai, dit Gibassier. Une chose m'étonne, mon ami. »« Diable, c'est bien de l'honneur pour cette chose-là, dit Carmagnol. » « Me préoccupe alors. Dites, si je puis vous enlever cette préoccupation, je me regarderai comme un homme heureux. Voici, M. Jacal m'a dit que je trouverai notre homme à midi précis dans l'église de l'Assomption, au troisième pilier en entrant à main gauche. »« Au troisième pilier, oui. » »« Et parlant à un moine. » »« À son fils, l'abbé Dominique. » Gibassier regarda Carmagnol du même air qu'il avait regardé M. Jacal. « Eh bien, dit-il, je me croyais fort, il paraît que je me trompais. »« Pourquoi cette humilité ?» demanda Carmagnol. Gibassier resta encore un moment muet. Il était évident qu'il faisait des efforts inouïs pour percer avec ses yeux de lynx l'obscurité qui l'aveuglait. « Eh bien, dit-il, il y a là-dedans un renseignement d'une fausseté insigne. »« Pourquoi cela ?» Ou, s'il est vrai, il me remplit à la fois de stupeur et d'admiration. » Pour qui ? Pour M. Jacal. Carmagnol ôta son chapeau comme fait le chef d'une troupe de saltimbanques quand il parle de M. le maire et des autorités constituées. Et quel est ce renseignement ? Demanda-t-il. C'est celui de ce pilier et de ce moine. Que M. Jacal sache le passé, que M. Jacqual sache même le présent, je l'admets. » Carmagnol suivait chaque phrase de Gibassier avec un mouvement de tête affirmatif. « Mais qu'il sache encore l'avenir, voilà ce qui me passe, Carmagnol. » Carmagnol se mit à rire en montrant ses dents blanches. « Et comment vous expliquez-vous qu'il sache le passé et le présent ?» demanda Carmagnol. « Que M. Jacqual ait deviné que M. Serranti se rendrait à l'église, rien de plus simple. Au moment de risquer sa vie en essayant de renverser un gouvernement, il est naturel d'implorer le secours de la religion et l'assistance des saints. Qu'il ait deviné que M. Serranti choisirait l'Assomption, rien de plus simple encore, puisque cette basilique est destinée à recevoir aujourd'hui le foyer de l'insurrection. » Carmagnol continuait d'approuver par des mouvements de tête. Qu'il ait deviné que M. Serranti serait à midi plutôt qu'à 11 heures, 11 heures et demie, midi moins un quart, rien de plus aisé encore. Un conspirateur qui a passé une partie de la nuit dans l'exercice de son état, à moins qu'il ne soit un gaillard ultra robuste, n'irait pas grelotter de gaieté de cœur à la première messe du matin. Qu'il ait découvert qu'il s'adosserait contre un pilier, je ne trouve là rien de bien merveilleux encore. Après 3 ou 4 jours et autant de nuits de voyage, il n'est pas étonnant qu'éprouvant une certaine fatigue, il s'adosse pour se reposer contre un pilier. Enfin, que par une déduction logique il ait deviné que je trouverais mon homme à gauche plutôt qu'à droite, je le comprends encore, le côté gauche devant tout naturellement être choisi par un chef d'opposition. Tout cela est habile, extraordinaire, mais nullement merveilleux, puisque j'arrive à m'en rendre compte. Mais ce qui m'étonne, ce qui me stupéfait, ce qui m'abrutit, ce qui me plonge dans un incompréhensible hébétement... Gibassier s'arrêta, comme pour arriver à deviner l'énigme par un redoublement d'intelligence. « Eh bien, c'est... » demanda Carmagnol. C'est comment M. Jacqual a pu deviner le numéro du pilier auquel il s'adosserait, l'heure à laquelle il s'y adosserait, et qu'un moine viendrait lui parler à cette heure, et tandis qu'il y serait adossé. Comment, dit Carmagnol, c'est cela qui vous embarrasse et couvre votre front de ce nuage, seigneur comte? Pas autre chose, Carmagnol, répondit Gibassier. Eh bien, c'est aussi simple que tout le reste. Bah, c'est même plus simple. « Vraiment ? Sur mon honneur. Voulez-vous alors me faire l'amitié de me dévoiler ce mystère ?»« Avec le plus grand plaisir. J'écoute. Connaissez-vous la Barbette ? Ah, je connais une rue de ce nom-là qui commence à celle des Trois Pavillons et qui finit vieille rue du Temple. Ce n'est pas cela. Ah, je connais la Porte Barbette qui faisait partie de l'enceinte de Philippe Auguste et qui doit son nom à Étienne Barbette, voyer de Paris, maître de la monnaie et prévôt des marchands. Ah, ce n'est pas cela encore. Je connais l'hôtel Barbette où Isabelle de Bavière accoucha du dauphin Charles VII. Le duc d'Orléans sortait de cet hôtel lorsque, le 23 novembre 1407, par une nuit très pluvieuse, il fut assassiné. « Ah, c'est !» s'écria Carmagnol, qui étouffait comme un homme à qui on avait fait avaler une lame de sabre. « Ah, c'est ! Quelques mots de plus, Gibassier, et je demande pour vous une chaire d'histoire. »« C'est vrai, » répondit Gibassier, « c'est toujours l'érudition qui m'a perdu. Mais enfin, de quelle Barbette parlez-vous ? De la rue, de la porte ou de l'hôtel ?»« Ni de l'une ni de l'autre, illustre bachelier, » dit Carmagnol en regardant Gibassier avec admiration et en faisant passer sa bourse de sa poche droite dans sa poche gauche, c'est-à-dire en mettant toute l'épaisseur de son corps entre elle et son compagnon, croyant, avec quelque raison peut-être, qu'il devait s'attendre à tout de la part d'un homme qui avouait savoir tant de choses et qui en savait sans doute encore plus qu'il ne l'avouait. « Non, continua Carmagnol, ma Barbette à moi, c'est une loueuse de chaises de l'église Saint-Jacques, qui demeure impasse des Vignes. »« Oh, qu'est-ce qu'une loueuse de chaises de l'impasse des Vignes ?» fit dédaigneusement Gibassier. « Et quelle pauvre compagnie fréquentez-vous là, Carmagnol ?»« Il faut voir un peu de tout, seigneur comte. »« Enfin, dit Gibassier. » Je dis donc que la Barbette loue des chaises, et des chaises sur lesquelles mon ami Longavoine, vous connaissez Longavoine, de vue, des chaises sur lesquelles mon ami Longavoine ne dédaigne pas de s'asseoir. Et quel rapport cette femme qui loue des chaises sur lesquelles votre ami Longue Avoine ne dédaigne pas de s'asseoir a-t-elle avec le mystère que je désire approfondir? Un rapport direct. Voyons, dit Gibassier, s'arrêtant en clignant les yeux et en faisant tourner ses pouces sur son ventre, c'est-à-dire en employant toutes les ressources de la voix et du geste pour dire « je ne comprends pas ». Carmagnol s'arrêta aussi de son côté, souriant et jouissant de son triomphe. L'église de l'Assomption sonna 11h15. Les deux hommes parurent chasser toute préoccupation étrangère pour écouter sonner l'heure. « Ah, midi moins un quart, dirent-ils. Bien, nous avons le temps. » Cette exclamation prouvait l'attention que chacun apportait dans la conversation où il était engagé avec son interlocuteur. Mais comme l'attention était encore plus vivement éveillée chez Gibassier que chez Carmagnol, puisque c'était Gibassier qui interrogeait et Carmagnol qui répondait, « J'écoute, reprit Gibassier. » Vous ignorez peut-être, mon cher collègue, n'ayant pas les mêmes penchants que moi pour notre sainte religion, que toutes les loueuses de chaises se connaissent comme les cinq doigts de la main. J'avoue que je l'ignorais complètement, dit Gibassier avec cette suprême franchise des hommes forts. Eh bien, reprit Carmagnol, tout fier d'avoir enseigné quelque chose à un si savant homme, cette loueuse de chaises de l'église Saint-Jacques, « La Barbette, » dit Gibassier pour prouver qu'il ne perdait pas un mot de la conversation. « La Barbette, oui, est étroitement liée d'amitié avec une des loueuses de chaises de Saint-Sulpice, laquelle loueuse de chaises habite rue du Pot-de-Fer. »« Ah !» s'écria Gibassier, ébloui par une lueur. « Vous commencez à y être, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que j'entrevois, que je flaire, que je devine. » « Eh bien, notre loueuse de chaises de Saint-Sulpice est concierge, comme je vous le disais tout à l'heure, de la maison, jusqu'à la porte de laquelle vous avez hier au soir suivi M. Saranti, et dans laquelle demeure son fils, l'abbé Dominique. « Allez toujours, » dit Gibassier, ne voulant pour rien au monde perdre le fil qu'il venait d'attraper. « Eh bien, la première pensée qui est venue à M. Jacqual en recevant ce matin la lettre dans laquelle vous lui donniez votre itinéraire d'hier, a été, voyant que vous aviez suivi M. Saranti jusqu'à la porte d'une maison de la rue du Pot-au-Fer, a été de m'envoyer chercher pour me demander si je ne connaissais pas quelqu'un dans cette maison-là. Vous comprenez, mon cher Gibassier, que ma joie fut grande quand je reconnus que c'était celle dont la garde était confiée au cordon de l'ami de mon ami. Je ne pris que le temps de faire un signe d'affirmation et je courus chez la Barbette. Je savais trouver Longue Avoine chez elle, c'est l'heure où il prend son café. Je courus donc impasse des vignes, Longue Avoine y était. Je lui dis deux mots à l'oreille, il en dit quatre à l'oreille de la Barbette, et celle-ci partit à l'instant même pour faire une petite visite à son amie, la loueuse de chaises de Saint-Sulpice. « Ah, pas mal, » dit Gibassier, qui commençait à deviner les premières syllabes de la charade. « Continuez, je ne perds pas un mot. » Ce matin, vers 8h30, la Barbette se transporta donc rue Pot-de-Fer. Je vous ai dit, je crois, qu'en quatre mots, Longue Avoine l'avait mise au courant de l'affaire. Or, la première chose qu'elle aperçut dans l'angle de l'un des carreaux fut une lettre adressée à M. Dominique Saranti. « Tiens, » dit la Barbette à son ami, « il n'est donc pas encore revenu, votre moine ?»« Non, » dit l'autre, « et même que je l'attends d'heure en heure. » « C'est étonnant qu'il reste si longtemps dehors. Est-ce que l'on sait jamais ce que ça fait, des moines? Mais à quel propos me parlez-vous de lui ?»« Oh, parce que je vois là tout simplement une lettre à son adresse, » répondit la Barbette. « Oui, c'est une lettre qu'on a apportée pour lui hier au soir. »« C'est drôle, » reprit la Barbette, « on dirait une écriture de femme. »« Ma foi, non, » répondit l'autre. « Ah bien oui, des femmes, depuis 5 ans que l'abbé Dominique habite ici, je n'ai pas vu le museau d'une seule. »« Ah, vous avez beau dire, mais non, puisque c'est un homme qui l'a écrite là, et même qu'il m'a fait grand-peur. »« Oh, vous aurait-il insulté, ma commère ?»« Oh, non, Dieu merci, je ne saurais dire cela, mais voyez-vous, il faut croire que je roupillais un brin, j'ai rouvert les yeux et j'ai vu tout à coup devant moi un grand homme tout noir. » Était-ce le diable par hasard? Non, car après son départ, ça aurait senti le soufre. Alors il m'a demandé si l'abbé Dominique était revenu. Non, lui ai-je dit, pas encore. Eh bien, je vous annonce, moi, qu'il reviendra ce soir ou demain matin. C'était assez effrayant, il me semble. Oui. Ah, lui dis-je, il reviendra ce soir ou demain matin. Eh bien, foi de Périne, cela me fait plaisir. Est-il votre confesseur ? Demanda-t-il en riant. Monsieur, lui dis-je, apprenez que je ne me confesse pas aux jeunes gens de son âge. Ah, eh bien, faites-moi le plaisir de lui dire. Mais non, cela vaut mieux. Avez-vous une plume, du papier, de l'encre ? Parbleu, la belle demande. Je vais lui écrire. Donnez-moi ce qu'il me faut. Je lui donnai son encre, sa plume et son papier, et il écrivit cette lettre. Maintenant, demanda-t-il, avez-vous des pains à cacheter ou de la cire ? Oh, quant à cela, non, lui répondis-je, je n'en ai point. Ah, vous n'en aviez pas ? Observa la barbette. Suffit, mais pourquoi voulez-vous que je fasse cadeau de ma cire et de mes pains à cacheter à des inconnus ? Ah, au fait, ce serait une ruine à la longue. Oh, ce n'est pas encore pour la ruine, mais ça vous a un air de se défier des gens que de leur demander de quoi cacheter une lettre. Oui, et puis ça gêne pour lire la lettre quand ils sont partis. Mais alors, continua la barbette en jetant les yeux sur la lettre, comment se fait-il qu'elle soit scellée? Ne m'en parlez pas. Il a fouillé dans son portefeuille et il a tant cherché qu'il y a retrouvé un vieux pain à cacheter. Ah, de sorte que vous ne savez pas ce que contient la lettre. Ma foi, non, mais à quoi cela m'avancerait-il de savoir que M. Dominique est son fils, qu'il l'attendra aujourd'hui à midi à l'Assomption, appuyé au troisième pilier à gauche en entrant, et qu'il est à Paris sous le nom de Dubreuil. Alors donc, vous l'avez lu tout de même ? Oh, je l'ai fait bâiller, cela m'intriguait de savoir pourquoi il tenait tant à avoir son pain à cacheter. Juste à ce moment, on entendit la cloche de Saint-Sulpice. « Ah ! S'écria la portière de la rue du Pot-de-Fer, et moi qui oubliais ! Quoi donc ? Qu'il y a un enterrement à 9 heures ! Bon, et mon gueux de mari qui est allé boire ! Jamais d'autre, quoi ! Il n'en fait jamais d'autre ! Par qui veut-il que je fasse garder ma porte ? Par mon chat ? « Eh bien, mais ne suis-je pas là, moi ?» dit la barbette. « Vrai ? » demanda l'autre. « Vous me rendriez un pareil service ? » ?»« Oh, cette bêtise ! Est-ce qu'il ne faut pas s'entraider en ce monde ?» Et sur cette assurance, la loueuse de chaises de Saint-Sulpice s'en alla vaquer à ses travaux. « Oui, je comprends, » dit Gibassier. Et la barbette, restée seule, a fait bâiller la lettre à son tour. Oh, elle l'a mise au-dessus de la vapeur de la bouilloire, et l'a bel et bien ouverte et copiée, de sorte que 10 minutes après, nous avions la lettre tout entière. Et la lettre disait « Ce qu'avait déjà dit la portière du numéro 28. D'ailleurs, tenez, voici le texte. » Et Carmagnol tira un papier de sa poche et lut tout haut, en même temps que Gibassier lisait tout bas « Mon cher fils, je suis à Paris depuis ce soir sous le nom de Dubreuil. » Ma première visite a été pour vous, on m'apprend que vous n'êtes pas revenu, mais que l'on vous a fait passer ma première lettre et que par conséquent vous ne pouvez tarder. Si vous arrivez cette nuit ou demain matin, trouvez-vous à midi à l'église de l'Assomption, je serai adossé au troisième pilier en entrant à gauche. Ah, dit Gibassier, très bien. Et comme ils étaient arrivés ainsi, tout en causant de leurs affaires et des affaires des autres, à la dernière marche du porche de l'Assomption, ils entrèrent dans l'église juste comme midi sonnait. Au troisième pilier à gauche se tenait adossé M. Saranetti, tandis qu'agenouillé près de lui, Dominique, sans être vu de personne, lui baisait la main. Ne nous trompons pas, il avait été vu de Gibassier et de Carmagnol.